Gloire à Dieu, nous retrouvons une fois de plus pour notre série Béréen l'explorateur, l'étude de la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, jusque de la Genèse à Apocalypse. Et nous en sommes au livre de Psaumes, et plus particulièrement le psaume 60. Donc nous allons attaquer le psaume 60. Je laisse l'ancien lire. Voilà.
Psaume 60. Au chef des chantres, sur le lys lyrique, hymne de David pour enseigner. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tsoba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 édomites. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité. Relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Répare ses brèches, car elle chancelle. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vent d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière, pour qu'elle s'élève à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, « Je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galad, à moi Manassé, Éphraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave, je jette mon soulier sur Édom, pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis.
Voilà, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ce verset-là, nous le retrouvons aussi dans le psaume 103, je crois. Là, nous lisons donc le verset 13. « Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. » Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais c'est le secours de Dieu qui compte. Alors, dans ce psaume, nous voyons deux phases. Nous voyons l'abandon du Seigneur et le secours de Dieu. Dieu a abandonné un moment son peuple. Après, il le secourt quand même dans sa fidélité. Nous retrouvons ainsi la phrase qui dit « Ce n'est pas à cause de l'infidélité de certains que Dieu deviendrait infidèle. Dieu, lui, y reste fidèle. » Voilà. Là, au verset 3, c'est dit « Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. » Voilà. Donc, il reconnaît que la débandade qu'ils avaient subie, c'était dû au fait que c'est Dieu qui les avait repoussé, mais il crie à ce même Dieu pour qu'il agisse dans le but de les relever. Les psaumes nous montrent un attachement à Dieu qui est viscéral, quoi, qui est profond de la part de David, de la part de certaines personnes autour de lui. C'est des gens qui vivent en se disant, après tout, on n'a que Dieu, quoi. On n'a que lui, qui nous arrive malheur, qui nous arrive le bonheur. On ne peut aller que vers lui. C'est profond. Dans le psaume 60, nous voyons une attitude de non-jugement vis-à-vis de Dieu. Donc, quoique ils reconnaissent que c'est Dieu qui les a abandonnés, quoiqu'ils reconnaissent que c'est Dieu qui ne les a pas secourus, mais il n'y a aucun relent, aucun indice de jugement dans son discours. Il reconnaît, c'est toi qui nous as abandonnés, c'est toi qui nous as lâchés. Mais il prie le même Dieu avec confiance, sans jugement. Et j'ai envie de parler ainsi de la souveraineté de Dieu. Et le Seigneur est vraiment fidèle parce que le texte que notre frère a relu deux fois, ça parle de la souveraineté de Dieu. Or, c'était prévu qu'on en parle concernant ce psaume 60. Quand on lit la prière, on voit une attitude de simplicité vis-à-vis de Dieu, telle que la personne reconnaît que c'est Dieu qui est la source de leurs problèmes, c'est Dieu qui les a abandonnés, mais sans juger Dieu. Quelqu'un va me dire, oui, mais peut-être parce qu'il était conscient qu'ils avaient péché et que c'était à cause de ça, bien aimé. Mais même quand on pense qu'on a péché, lorsqu'on subit des souffrances, on finit par murmurer un peu contre Dieu. Parce qu'il y a souffrance et souffrance. Parce que quand il dit au verset 5, tu as fait voir à ton peuple des choses dures. C'est que ça a été une grosse souffrance. Mais on ne sent pas dans le ton un arrière-goût de jugement. Il n'y a pas ça. Et c'est le grand problème de notre siècle. Le grand problème de notre siècle, c'est, hein, je parle pour moi aussi, c'est que on a du mal à céder face à la souveraineté de Dieu. Il nous faut des explications toujours. On veut des explications. Et on est très fort côté diagnostic. On regarde, on voit ce qui ne va pas, ça. Et ensuite, il nous faut des explications. Qu'on le veuille ou pas, une telle attitude fait diminuer notre foi en Dieu. Est-ce que je suis en train de dire que nous ne devons pas prier parfois pour demander des explications à Dieu? Je ne sais pas ce que je suis en train de dire, ça peut arriver. Mais ce qui se passe à notre siècle, c'est que c'est systématique. C'est régulier. Au fait, ça fait partie de notre substance. Comme on dit, c'est consubstantiel en nous. C'est que nous vivons une époque d'études, de découvertes scientifiques, où la science est forte et où l'homme est fort. Et il veut trouver des explications à tout. Et nous sommes influencés par cette atmosphère-là et nous amenons ça dans la relation avec Dieu, pour lui demander, même au fond de nos corps, même si on n'en parle pas, au fond de nous, on y réfléchit, on veut des explications. Et à force de vivre dans cet état d'esprit, notre foi baisse. Parce que tant qu'il n'y a pas d'explication, il y a comme un frein dans la foi. C'est comme si quelqu'un attendait qu'on prouve par l'archéologie l'existence de telle ville de la Bible, l'existence de tel personnage biblique, qu'on le veuille ou pas, même si cette personne se dit chrétienne, il y aura un obstacle quand même par rapport à une foi totale en Dieu. Parce que cette personne dépend des découvertes archéologiques. La foi en Dieu doit être totale, sans discussion. Son existence est évidente. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas satisfaits intellectuellement que son existence va être remise en question. Son existence est évidente. Et là où nos aînés avaient une avance sur nous, c'est sur ce point-là. C'est que malgré les malheurs, ils avaient du mal à renier l'existence de Dieu. Là, le diagnostic est fait. Il dit que c'est Dieu qui nous a abandonnés, mais il prie avec une foi invariable. La même foi qu'il aurait eue au temps de bonheur, il a la même foi autant de malheur. Parce qu'ils avaient, ces gens-là, la notion de souveraineté. Parce qu'ils connaissaient des rois, ils connaissaient des souverains humains. Des gens qui décidaient sur tout. Des gens qui pouvaient décider de prendre ta maison. Ils étaient, comme il y avait cet environnement-là des gens souverains à l'époque, on pouvait bien comprendre le Dieu souverain. Mais à notre époque, il n'y a pas d'humain souverain. Les pouvoirs des humains sont limités. Donc on n'a pas d'exemple, sauf pour certains qui ont habité des pays comme le Maroc, voilà les pays où il y a des rois vraiment véritables, pas des rois comme la reine d'Angleterre, mais des rois qui dirigent le pays. Eh bien, sauf ces gens-là qui ont vécu ça, la plupart des gens ne savent pas c'est quoi un être souverain. C'est lui qui décide sur tout. Et en général, quand les malheurs arrivent, les choses arrivent, on a du mal à repartir avec une foi pleine, une foi ardente. Parce que beaucoup de notre espace de réflexion est pris par la recherche d'explications. Alors que cet espace devait être dédié à la foi et à la louange, à la prière, c'est pris par la recherche d'explications. Ça affaiblit notre foi, ça affaiblit l'atmosphère de gloire au milieu de nous. Et là, nous voyons quelqu'un qui dit, tu t'es irrité, relève-nous. Voilà. Il reconnaît que Dieu s'est fâché, mais il prie le même Dieu encore. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Répare ses brèches, car elle chancelle. Vous voyez, bien aimé, il n'y a pas un truc du genre, oui, mais tu as déchiré, maintenant comment on va faire? Est-ce que tu as réfléchi à ça? Bon, voilà. Non, il n'y a pas ça. On sait que c'est toi qui as déchiré, eh bien répare. Vous savez, dans un autre passage de la Bible, on dit que c'est lui qui a blessé et c'est lui qui va panser les plaies. Donc Dieu, c'est lui qui blesse et c'est lui qui panse les plaies. Vous savez, il y a une notion de souveraineté de Dieu. Tout est à lui, il en fait ce qu'il veut. Donc le psaume 115 qu'on a lu tout à l'heure, 115:3. Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Ça nous manque. Ça nous manque, c'est un problème pour notre génération. De comprendre que tout est à Dieu, il fait ce qu'il veut. Ah, mais j'ai mal, ça fait 5 jours. Mais tu es à Dieu. Il fait ce qu'il veut. Est-ce que tu ne souffres pas? Non, tu souffres, nous reconnaissons ça. Mais attention à cet arrière-goût, toujours de mise en doute de la sagesse de Dieu. Et vous savez, Dieu est tellement élevé qu'il rigole, il ne donne pas toujours les explications. Au fait, il veut nous introduire dans la notion de sa souveraineté. Les explications, c'est rien du tout. Vous savez, un jour au ciel, hein, on aura toutes les explications, on aura l'éternité pour les explications. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais il ne veut pas être, il ne veut pas qu'on le prenne à égalité. S'il faut qu'il explique tout, on est à égalité. Il faut qu'il y ait un homme et il faut qu'il y ait Dieu. Donc on n'est pas son égal pour qu'il nous explique tout. Et parfois, il permet des choses. Tu demandes les explications, il n'y en a pas. Il veut que tu reconnaisses que tu es à lui et qu'il peut faire de toi ce qu'il veut. Dans les années, dans l'année 2016, j'ai eu des douleurs terribles. Et pendant des jours, j'ai lutté avec Dieu par rapport aux explications et consorts. Non seulement j'avais la douleur, mais j'avais la perte de foi due à cette recherche d'explications effrénée. Et puis, avec le temps, la douleur s'est estompée. Puis est arrivé un matin, je pensais qu'il n'y avait plus de douleur, je me réveille, ça recommence. Et mon visage commençait déjà à s'assombrir. C'est en ce moment-là, ce n'est même pas moi qui ai prié ainsi. Il y a une force en moi qui m'a sorti les phrases suivantes. Fais de moi ce que tu veux. Quand j'ai dit cette phrase-là, fais de moi ce que tu veux, la douleur n'est pas partie. Mais la chape de plomb, le voile comme qui me séparait du ciel, ce voile-là a été déchiré. J'ai réalisé que j'étais à nouveau connecté à Dieu et la douleur, même si elle était là, elle n'avait plus le même impact sur moi. Donc quand j'ai dit, fais de moi ce que tu veux, le ciel s'est ouvert. Alors que les jours où je cherchais l'explication, non seulement j'avais... Je ne dis pas qu'on ne recherche pas l'explication, mais quand ça devient voilà, quelque chose qui conditionne notre bonheur, qui conditionne notre foi, qui conditionne notre louange, qui conditionne la suite, enfin qui fait blocage, quoi. On ne dit pas que ça conditionne, mais on sent que ça fait blocage, tu n'avances pas tant que ce n'est pas réglé. À ce moment-là, j'avais non seulement la douleur, mais j'avais aussi le ciel fermé. Mais quand j'ai dit, fais de moi ce que tu veux, j'avais toujours la douleur, mais je n'avais plus le ciel fermé. Et je peux vous dire, bien-aimé, quand le ciel ouvert est ouvert, quelle que soit la douleur, tu vas supporter. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas faire mal. Mais il y a une puissance qui est au-dessus de ça, c'est la puissance de Dieu. C'est une réalité. Le problème, il faut que le ciel soit toujours ouvert. Ne fermons pas le ciel par trop de recherches d'explications, trop de recherches de rationalité dans Dieu. Dieu est irrationnel. Il ne peut pas être défini par des nombres entiers en fractions. Non. Il est plus que ça. C'est ça qu'on retrouve dans ce psaume 60 où le monsieur fait le diagnostic clair que c'est Dieu qui les a abandonnés, c'est Dieu qui les a livrés, mais il prie avec une liberté, une aisance, ce même Dieu-là, parce que la personne a un cœur simple vis-à-vis de Dieu. Il a un cœur simple. Un cœur simple. Voilà ce que Dieu attend de nous. Un cœur simple. Et on voit comment ça finit toujours. Ça finit toujours par des louanges à Dieu. Afin que tes bien-aimés soient délivrés. Verset 7. Sauve par ta droite et exauce-nous. Il crie à Dieu. Et finalement, on finit par le verset 13 et 14. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Voilà. Malgré ce que nous subissons, nous ne cherchons pas le secours de l'homme. Nous cherchons toujours le secours de Dieu. Et verset 14, qu'on retrouve, je crois, dans le psaume 100. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen.
Oui, pasteur. Moi, je voudrais poser une question par rapport. Le Seigneur, il sait qu'on l'aime. Quel est son intérêt de nous faire souffrir? Nous, les chrétiens, il sait qu'on peut aller jusqu'à de sa demande. Et il peut nous dire tranquillement, sans nous faire mal, comme il dit... Je vous dis, qui peut nous déchirer comme ça. Est-ce que c'est son intérêt, c'est quoi?
Son intérêt, c'est de nous perfectionner. L'homme n'est perfectionné souvent qu'à travers la souffrance. Quand il n'y a pas la souffrance, l'homme a tendance à se prendre pour Dieu et à chercher à être son rival.
Et comme ces chrétiens qui paient aller vers les païens de palais, tout ça. De ce moment, on est dans la souffrance. Est-ce que les païens, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, comment ils vont
interpréter ça. Voilà, c'est aussi un moyen pour nous d'apprendre que ce n'est pas notre état que nous devons prêcher aux gens. Notre prospérité, notre état de santé, on doit prêcher Jésus. Or, Jésus est plus fort que notre souffrance. Souvenez-vous, à la croix, Il était crucifié, mais le monsieur à côté a cru en lui. Donc, la puissance de Dieu pour toucher les cœurs ne nécessite pas que nous, on soit riches ou en bonne santé. Voilà. On doit apprendre ça. L'apôtre nous en parle. Il dit, afin que votre foi ne repose pas sur la logique. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, hein, on peut lire ça. Que votre foi ne repose pas sur l'homme, mais repose sur la puissance de Dieu qui est au-dessus de ce que l'homme est. 1 Corinthiens 2. Comme j'ai donné l'exemple de Elinor, cette Américaine qui est partie chez les Kimial, elle était handicapée, mais elle a pu faire passer l'évangile. Malgré son handicap, les gens ne se sont pas dit, mais oui, mais pourquoi son Dieu ne la guérit pas? L'évangile est plus fort que cela. C'est aussi un enseignement pour les gens de notre époque qui pensons qu'il faut à tout prix être soi-même puissant en richesse et en santé pour pouvoir parler de Dieu. Voilà. Donc, c'est au verset... on peut commencer dès le départ. Hein, voilà.
1 Corinthiens, chapitre 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le royaume de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.
Voilà, c'est ça ce que Dieu fait. Parfois, nous sommes dans des états difficiles, parfois endettés, mais nous savons que lui, Dieu, n'est pas endetté, et donc nous pouvons toujours parler de lui, et c'est lui qui touche les cœurs. Voilà, et... Donc ce psaume finit par, verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. » Donc même si Dieu me rejette aujourd'hui, il reste mon Dieu. Je me repentirai, je lui demanderai pardon, il me récupérera et il vaincra mes ennemis. Voilà, c'est ça l'enseignement. Il peut m'abandonner, mais me récupérer. Il peut m'abandonner et me secourir. Donc s'il m'abandonne, j'irai le voir. Et je lui dirai, vous savez, le fils perdu, papa, j'ai péché contre toi. Prends-moi même comme un de tes serviteurs. Ben, il va me récupérer et il vaincra mes ennemis. Donc ne nous décourageons pas parce que nous semblons vivre des situations de déclin. Revenons vers Dieu, repartons vers lui, il va changer les choses. Mais bien aimé, n'oublions pas la souveraineté de Dieu. Nous sommes à lui. La souveraineté, c'est ça. Nous sommes à lui. Il fait de nous ce qu'il veut. Donc, il y aura des jours où il y aura des explications. Il y aura des moments où il n'y aura pas d'explications. Dans tous les cas, nous devons vivre la souveraineté de Dieu. Lui rendre gloire, quoi qu'il arrive. Il est souverain. Nous sommes à lui. C'est ça la maturité spirituelle. Amen. Psaume 61.
Au chef des chantres, sur instrument à cordes, de David. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte. En face de l'ennemi, je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours aux jours du roi, que ces années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux.
Amen, amen. Voilà, une fois de plus, un des thèmes qui revient dans les psaumes, c'est que Dieu est notre refuge. Mais vous savez, nous, à notre époque, comme nous n'avons pas vécu des guerres, Bon, on a pas trop la notion aussi de refuge. Voilà, quand on dit refuge, ça paraît comme un mot poétique, alors que c'est vraiment un mot réel. Les gens qui ont vécu même la Deuxième Guerre mondiale ont une certaine notion de refuge. Et les Suisses aussi ont une certaine notion de refuge. Vous savez, en Suisse, il y a des refuges anti-atomiques. Donc, lorsque il y a, ils font des exercices, hein. Donc, chaque habitant d'une ville suisse sait où se trouve son refuge atomique. Il y en a même qui les ont dans leur maison en dessous. Beaucoup de maisons ont en dessous un refuge anti-atomique. Donc, c'est vraiment bien construit, bien blindé, où on peut aller en cas de largage de bombes atomiques. Voilà. Ces gens-là connaissent ce qu'est un refuge. C'est un endroit de sécurité. Un endroit de sécurité à l'abri des armes les plus létales. Et à l'époque de David, il y avait ce genre de refuge. Il y avait des forteresses. Quand on dit Dieu est ma forteresse, vos forteresses, c'est des murs très élevés et très solides qui empêchent l'ennemi d'entrer. Et eux, quand ils disaient « il est ma forteresse », ils voyaient vraiment cette image-là. Alors que nous, quand on dit « il est ma forteresse », ça devient comme une sorte de mot poétique. Il faut peut-être, je ne sais pas, il faut trouver des traductions contemporaines qui va traduire « forteresse » à l'image de ce que peut-être notre sécurité aujourd'hui. Voilà, c'est parce que tout le monde ne saisit pas l'efficacité parfois de la parole de Dieu, parce que les termes utilisés ne correspondent pas au vécu d'aujourd'hui. On est obligé d'actualiser comme ça en expliquant. Forteresse, c'est vraiment une haute muraille qui protège. Et c'est comme ça que David considère Dieu, et considère Dieu comme étant son refuge. Quand il est dans Dieu, on ne peut pas l'atteindre. Pour lui, c'est vraiment la compréhension est simple, parce que la comparaison, il la voit physiquement. Et il faut qu'on se fasse ces images-là parfois quand on lit, parce que ça permet que la parole soit concrète, que ça soit pas imagé, poétique comme ça. Ça reste comme quelque chose de l'esprit. Non, c'est vraiment de la réalité. Et vous savez une chose, c'est que ce que parfois la Bible dit en des termes du genre refuge, forteresse, tout ça, c'est parfois, ça peut être une image pour certains, parce que physiquement nous vivons une époque où il n'y a plus ce genre de choses, mais en réalité dans le monde spirituel, c'est une réalité. C'est une réalité que quand les gens veulent s'en prendre aux enfants de Dieu, soit ils ne les voient pas. Pourquoi ils ne les voient pas? Parce qu'ils sont comme ils sont au sein de Dieu. Or, Dieu est invisible. Donc, soit ils ne les voient pas, soit ils voient réellement une forteresse les entourer. Il y a beaucoup de gens qui ont témoigné que quand ils se sont approchés des enfants de Dieu, soit ils ne les ont pas vus, soit ils ont vu des anges de haute taille entourés là où ils dormaient, soit carrément un vrai mur aussi, de très très élevé, une vraie forteresse. C'est-à-dire que ce que nous, on ne peut plus vivre aujourd'hui en disant « car tu es pour moi un refuge », verset 4, une tour forte en face de l'ennemi, dans le monde spirituel, ça reste valable. Ça reste valable, les gens voient vraiment une tour forte autour de nous quand ils avancent pour nous faire du mal. Et parfois, ils ne nous voient pas. Nous sommes dans le Seigneur, ils ne nous voient pas. Ils voient comme un vide. Voilà. C'est important de saisir que ça ne doit pas rester comme des images. C'est la réalité. Et on peut l'appliquer aussi, finalement, par rapport à des soucis d'aujourd'hui, comme des soucis économiques, la vie dans des pays dictatoriaux. On peut appliquer tout ça en disant « Dieu est mon refuge ». Les annonces du gouvernement, là, on attend des annonces, là. Mais on peut appliquer ça en disant « Dieu est mon refuge. Peu importe ce qu'on va annoncer, je me réfugie dans le Seigneur. » C'est important de voir ça comme une réalité, pas comme une image. Parce qu'il y a des gens, quand ils lisent ça, ils disent « On peut résumer, il est ma protection. » Mais c'est vrai, on peut résumer ainsi. Mais on doit prendre ça au mot dans le sens spirituel. Ça se vit vraiment tel qu'il décrit. Voilà. Les écrivains de la Bible ont parfois été utilisés sans que eux-mêmes ils voient les choses. Ils ont sorti des paroles qui étaient de Dieu et pour que ce soit pour notre époque. Voilà. Donc quand il dit, verset 7, « Ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais. » C'est important de comprendre que c'est Dieu qui nous maintient en vie. C'est Dieu qui nous garde. Maintenant, quand il dit là que ces années se prolongent à jamais, il est question pas du roi en tant qu'humain, mais c'est du roi en tant que dynastie, en tant que lignée, c'est-à-dire le roi et ses descendants. Vous vous souvenez, Dieu avait promis à David que il y aura toujours quelqu'un de sa descendance qui sera sur le trône. Voilà, donc ce n'est pas à demander là que David soit éternel, mais c'est que son nom soit éternel, qui est toujours une descendance et la descendance éternelle qui peut l'assumer. Il n'y a que le fils de David qu'on appelle Jésus. C'est lui dont il est question là, que ses années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Voilà, la prière de David, c'est une prière puissante, parce que ce n'est pas une prière, je dirais, humaine à 100%. Un humain s'intéresse souvent à son environnement et à son temps. Mais là, le monsieur s'intéresse à l'éternité carrément. Il s'intéresse à toute la suite. C'est des prières en connexion avec le Saint-Esprit, en connexion avec Dieu. Parce qu'un être humain, en général, il veut que de son temps, les choses se passent bien. Bon, à peu près aussi du temps de son fils, après lui. Mais là, c'est un désir éternel qu'on voit dans David. On voit que c'est un homme connecté au Dieu éternel. C'est pas juste le Dieu qui va l'exaucer pour certaines affaires terrestres, mais c'est vraiment pour la gloire éternelle de Dieu. Alors je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. Voilà, Dieu est notre refuge bien-aimé, n'oublions pas. Nous vivons des temps difficiles aujourd'hui, des annonces compliquées à gauche, à droite. Il y a parfois des projections d'avenir, on se dit que ça va être quoi pour nos enfants? Oh Seigneur, si aujourd'hui on nous confisquait les maisons, vous savez, en Australie et en Nouvelle-Zélande, il commence à y avoir des comportements dictatoriaux excessifs. Peut-être bientôt, ils forceront physiquement les gens à prendre le vaccin. Et quand on entend tout ça, beaucoup de chrétiens sont déstabilisés. Imaginons maintenant les chrétiens australiens, ça doit être comment? Mais attention, Dieu est notre refuge. N'oublions pas ça. Au lieu de paniquer, prions, Seigneur, tu es notre refuge, on se réfugie en toi. On refuse que la panique nous touche. On croit que tu es notre forteresse. Voilà, bien aimé, littéralement, c'est vraiment notre forteresse. C'est pas une image, c'est vraiment ça. Prions dans ce sens-là et ne nous laissons pas déstabiliser. Il est vraiment notre refuge. Amen. Le psaume 62.
Au chef des chantres, d'après J'ai du temps, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancelerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir aux mensonges. Ils bénissent de leur bouche. Et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu. car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancelerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres.
Amen, amen, amen. Dieu a parlé une fois, il a parlé deux fois. C'est que la force est à Dieu. Donc quand quelqu'un s'agite beaucoup, c'est laissez-le s'agiter. La force est à Dieu. Quand quelqu'un fanfaronne en disant « Je suis fort, on a la force, notre état est fort, nous pouvons faire ceci. Nous... » Laissez-le fanfaronner. La force est à Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Psaume 74 et psaume 108 aussi, 14. Voilà, toujours le même verset. Donc, ne nous laissons pas abattre par la force de l'homme. Restons tranquilles. Notre Dieu, c'est à lui qu'appartient la force. Et là, le frère, il insiste deux fois. Il dit, Dieu a parlé une fois. Deux fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À lui seul. Souvenons-nous, le bien-aimé, de ce genre de verset. La force est à Dieu. Il a parlé deux fois. Il insiste là-dessus. La force lui appartient. Ne nous laissons pas effrayer par quoi que ce soit. Voilà. Et ce qu'on on retient dans ce psaume, qui est une fois de plus semblable aux autres, c'est toujours une question de difficultés, des attaques que subit David. Et il en appelle au secours de Dieu, à l'aide de Dieu. Mais après, il y a des nuances dans tout ça. Et là, la nuance qu'il y a plus dans ce psaume, c'est le verset 5 et le verset 10, hein, 10-11. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Donc là, il est question... des gens qui peuvent être autour de celui qui est élevé par Dieu et user d'intrigues, de mensonges pour le faire tomber, pour l'abattre. C'est une réalité que David vivait. Et ce que nous retenons ici, c'est ils bénissent de leur bouche. Ils disent de belles paroles, mais en réalité, ils maudissent dans leur cœur. Voilà. Là, on l'a vu clairement avec... les gouvernements d'aujourd'hui qui disent qu'ils veulent la santé de tous, mais en réalité, ils ont d'autres objectifs. Parce que quand on sait maintenant que le vaccin ne protège pas de la contamination et qu'on voit l'insistance avec laquelle ils veulent imposer ça, on se dit, il y a un autre objectif. Donc, ils bénissent de leur bouche. Ils disent de bonnes choses. C'est pour la santé, c'est pour protéger autrui. Mais en réalité, ils ont d'autres objectifs. Quand on entend parler des effets secondaires, mais qu'on continue à mettre la pression jusqu'aux enfants de 5 ans, est-ce que vous vous rendez compte? En fait, il y a des abominations qui se font aujourd'hui. Les gens se sont habitués à ça, malheureusement. C'est aussi une leçon pour tous ceux qui comptaient sur les humains. Hein. Regardez le comportement des humains. Si tu comptais sur le nombre d'humains, sur le fait que les gens sont passés à l'école pour qu'ils soient raisonnables, tu t'es trompé. L'homme est l'homme, qu'il fasse l'école ou pas, il est l'homme. On voit ce qui se passe. Ils bénissent de leur bouche beaucoup de bonnes intentions. Vous savez, ils ont fait, ça s'appelle quoi, COP 26, la conférence sur le climat. À Glasgow, en Écosse, pour qu'on arrête avec la consommation du kérosène, la consommation des carburants. Ils ont fait tout ça. Et vous savez comment eux, ils sont partis là-bas? En jet privé. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé encore beaucoup plus, ils ont consommé beaucoup plus de carburant que s'ils étaient partis en avion normal, quoi, en avion commercial. Non, chacun avait son jet privé. Ils pouvaient prendre aussi des trains. Vous savez, il y en a qui pouvaient prendre des trains, il y en a qui venaient de France. Ils pouvaient prendre des trains pour justement montrer l'exemple qu'ils veulent un bon climat. Non! Au fait, ils bénissent de la bouche, donc ils disent de belles paroles, mais en réalité, ils sont loin de les appliquer. Comme dernièrement, la ministre du logement français qui disait que la propriété individuelle n'est pas écologique. Que quelqu'un ait sa maison, son lopin de terre, c'est pas écologique. Mais quand on a fait l'enquête, ils ont trouvé qu'elle avait une très très grande maison. Sur un grand terrain, vous voyez, bénir de la bouche, mais maudire dans le cœur, quoi. Ils viennent parler, dire de bonnes choses, mais dans le cœur, c'est autre chose. Et ça, il faut qu'on s'habitue à ça. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont à chaque fois surpris au point presque de tomber en syncope quand ils vivent ce qu'on est en train de lire là. Alors que c'est écrit, hein. Ils prennent plaisir au mensonge. C'est des menteurs. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils font des trucs pour la protection de l'enfant. C'est eux-mêmes qui font le trafic. Hein, dans la pédocriminalité, c'est eux-mêmes. Je pense que vous êtes au courant de du film qu'a produit Carl Zero sur la pédocriminalité. Ce sont les dirigeants de ce monde. Eux-mêmes qui font les trucs UNICEF pour les enfants. En réalité, c'est eux-mêmes qui font le trafic d'enfants pour la prostitution et pour enlever les organes. C'est ça, bénir de leur bouche, mais ils maudissent de leur cœur. Voilà, ce sont ces gens-là et ils peuvent s'en retrouver autour de nous. C'est une réalité. Le Seigneur a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Voilà, c'est ce que David est en train d'expérimenter. Mais dans tout ça, il dit, oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. C'est-à-dire que la vraie protection du chrétien, c'est de ne pas connaître qui est mauvais, qui est sorcier, qui est tout ça. C'est pas ça la vraie protection du chrétien. La vraie protection du chrétien, c'est Dieu lui-même. Si tu commences à chercher à savoir qui est qui, tu vas entrer dans l'espionnage, tu vas entrer toi-même dans le péché. Toi, contente-toi des infos que Dieu te donne, ne soupçonne point le mal, mais confie-toi en Dieu comme protection. Tu verras, tu seras surpris. Bien-aimé, je vous dis la vérité, parce qu'aujourd'hui, tout le christianisme, excusez-moi quand je dis parfois tout, il y a toujours des exceptions, mais c'est pour montrer l'ampleur. Tout le christianisme dans les pays africains est basé sur la recherche de qui est l'ennemi. C'est la tante, c'est l'oncle, c'est le cousin qui me fait du mal, qui est le sorcier derrière mes problèmes. C'est tout le christianisme là-bas est basé sur ça. On oublie complètement ce que David dit. Dieu est ma haute retraite, mon refuge. On a expliqué dans le psaume précédent ce que pouvait être un refuge. C'est un abri parfois anti-atomique. Donc rien n'entre. Donc c'est une protection certaine. Quand tu fais de Dieu ton refuge, tu as à t'inquiéter de quoi? Commencer à avoir peur de ceci, peur de cela, soupçonner un tel. Non, bien-aimé, je ne dis pas qu'il n'y a pas de mauvais et que si Dieu permet qu'on les connaisse, tant mieux. Mais on n'est pas obligé de faire des enquêtes pour les connaître. Contentons-nous de prier le Seigneur. Que Dieu soit notre refuge, que cela nous suffise. Et on retrouve la même idée du mensonge dans ces gens-là. On voit au verset 10, « Oui, vanité les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils montraient tous ensemble, plus léger qu'un souffle. » Voilà, on nous dit, oh, beaucoup ont des paroles sucrées. L'homme est fort, parce que là, bon, on parle de mensonge. Moi, je rajoute paroles sucrées. L'homme est fort côté paroles de séduction. Paroles sucrées pour mettre son interlocuteur à l'aise. Ne vous en faites pas. C'est pourquoi moi, je dis souvent aux gens, ne vous contentez pas, ne vous laissez pas aller par ce que les gens disent. Attendez les actes, toujours. C'est les actes qui comptent. Si vous vous laissez aller par ce que les gens disent, ben, vous allez vous retrouver dans la forêt équatoriale. Hein, voilà. Parce que vous avez cru que là-bas se trouve le paradis. les gens sont très forts côté paroles mensongères. Et parfois involontaires, tellement ils aiment entretenir une conversation d'une manière sucrée, ils sont prêts à dire de bonnes choses. Ah, ça m'a touché. Vraiment, j'ai bien dormi. Quand tu entends ça, tu te dis, ah, mais ça marche, ça fonctionne. Non, attends les actes. C'est les actes qui comptent. C'est les actes qui comptent. Et nous devons faire de ça notre manière de fonctionner. Les actes, toujours les actes. Les belles paroles sont souvent des paroles mensongères. Donc prenons garde par rapport à cela et n'oublions pas que Dieu seul soit notre refuge. Ne nous laissons pas aller par les paroles de bénédiction qui viennent de la bouche. Attendons les actes. Vous savez, la grande majorité de la population aujourd'hui du monde entier s'est faite avoir parce qu'elle a gobé les paroles mielleuses que les gouvernants de ce monde ont sorties. Et voilà où nous en sommes. C'est que beaucoup vont... ils finiront par, le jour venu, accepter la marque de la bête, parce que c'est des gens qui entendent les bénédictions de la bouche au lieu de voir plutôt les actes. Ce n'est pas parce que quelqu'un, pendant 30 ans, a été correct, qu'on a abaissé de vigilance, on reste toujours vigilant, donc on attend toujours les actes pour tout. Voilà. Que Dieu soit béni. Psaume 63.
Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive. Ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée.
Amen. La bouche des menteurs sera fermée. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Voilà, vous voyez ici, dans notre version, on dit dans une terre aride, desséchée, sans eau. Mais dans d'autres versions, on dit comme une terre aride, desséchée, sans eau. Au fait, David, physiquement, il se retrouve dans une pareille terre. Il se retrouve, c'est écrit, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Il se retrouve dans le désert et lui vient l'inspiration, voilà, de comparer sa soif de Dieu à la soif de cette terre de recevoir de l'eau. Il dit, je suis comme cette terre aride qui aimerait tant avoir de l'eau. Et moi, mon nom à moi, c'est Dieu, quoi. J'ai soif de Dieu. Vous savez, bien-aimé, on ne peut pas fonctionner réellement en Dieu si on n'a pas soif de lui. C'est bien que nous fassions des activités pour aider les gens à garder un lien avec Dieu. Mais il arrive un stade où chacun de nous doit avoir faim de Dieu. C'est comme ça qu'on ira jusqu'au bout. Si quelqu'un est toujours porté par les activités organisées par les autres, il ne peut pas aller jusqu'au bout. Il arrive un temps où la personne doit se brancher à Dieu lui-même et expérimenter la soif de Dieu. De telles personnes, on peut être sûr qu'en travaillant avec eux, nous irons jusqu'au bout. Voilà. Donc quand on a de telles personnes qui ont soif de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui leur met la pression. C'est d'elles-mêmes, elles se disent, mais non, il me manque quelque chose. Il peut être devant une table remplie, mais il y a comme quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Ce qui manque, c'est Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et c'est des gens qui vont chercher Dieu. Et David dit, voilà, ta présence me manque. N'oublions pas que David vivait une époque où Jérusalem, non pas Jérusalem, la terre d'Israël, le tabernacle avait une grande importance. Et être loin de tout ça, c'était comme si on était loin de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait dit une fois à Saül. Il a dit, tu me fais éloigné de mon pays, c'est comme si tu m'éloignais de Dieu, quoi. Voilà. Et on se souvient aussi d'un psaume, un psaume, le psaume 122. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et il y a tous ces souvenirs là qui font que David se sent comme sec. Il a envie d'être avec les enfants de Dieu, louer Dieu, servir Dieu. C'est très important, bien-aimé. C'est là la marque du fait que on est vraiment dans Dieu, quoi. On veut aussi être avec les enfants de Dieu. On veut prier avec les enfants de Dieu. Je me souviens une fois, j'avais fait un séjour à Kabour, de 2 à 3 jours. J'avais l'impression, tellement il y avait une pression spirituelle là-bas, j'avais l'impression de perdre ma foi. Sans être attaqué concrètement par une proposition d'argent ou je ne sais quelle proposition. Non, c'est la preuve que les démons, ça existe. Les esprits invisibles, ça existe. Mais tu sens comme une sécheresse dans l'endroit, tellement c'est un endroit, comment dire, de villégiature, de finance. Voilà. Tu sens comme une sécheresse et ça t'atteint. Tu te sens comme vidé. Et je me souviens, quand on est revenu de Kabour et que j'ai ouvert, je crois que le même soir on était passé à la salle de culte, dès que j'ai ouvert la première porte de la salle de culte, j'ai eu l'impression que il y a de l'air frais spirituel qui entre en moi. Je me suis senti revivre, bien aimé. C'est une réalité des enfants de Dieu que d'avoir besoin de la prière, de la communion fraternelle. Un enfant de Dieu a besoin de ça pour vivre. Et quand ça lui manque, il a soif. N'hésitons pas, bien-aimés, à prier pour dire au Seigneur, « Seigneur, ce n'est pas normal que je n'aie pas soif. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que je suis en train de dépérir. Je veux avoir soif de toi. Je veux chercher ta face. » Voilà. Jésus dit à celui qui a soif, je donnerai de l'eau de vie. Voilà. Gratuitement. C'est des fleuves d'eau vive aussi couleront. Que celui qui a soif qu'il vienne. Des fleuves d'eau vive couleront. La soif de Dieu, c'est ça la vraie vie. C'est ça qui attire la puissance de Dieu. C'est ça qui attire la gloire de Dieu. Donc n'hésitons pas, bien-aimés, à crier à Dieu pour la soif. Voilà. Et au verset 8, il dit, au verset 7, « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. » Voilà, un enfant de Dieu va passer beaucoup de temps aussi à penser au Seigneur, à penser à l'avenir, à penser aux attentes de Dieu. Voilà. Comme ça, à rêvasser sur le Seigneur, à méditer, à discuter au fond de lui, de certaines vérités. Voilà. Du coup, quand maintenant on se retrouve ensemble, on sort ces vérités-là, fruits de méditation des uns des autres. Pendant la nuit ou bien pendant la journée. Voilà, David le dit, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. Ça, ce sont des caractéristiques des enfants de Dieu. Voilà, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Effectivement, un vrai enfant de Dieu se sent faible quand il ne réalise pas que Dieu, quand il n'a pas comme une impression que Dieu est là, même si nous sommes appelés à vivre par la foi, hein, mais cette foi est comme une force aussi spirituelle qu'on ressent ou pas. Voilà. Et il y a des moments où on ne sent rien du tout et ça, on est comme déstabilisé et on a envie, on est poussé à prier pour réaliser, non, il est là Dieu, même si je ne sens rien, il est là. Voilà. Et on prie à nouveau, ça nous restaure. C'est ça la caractéristique des enfants de Dieu, c'est que leur âme mange de Dieu. Leur âme mange de la parole de Dieu. Leur âme mange de la communion fraternelle. Leur âme mange les prières. Et quand ton âme n'a plus besoin de tout ça, c'est que tu es devenu un chrétien intellectuel. Voilà. Normalement, l'âme a besoin de tout ça. Voilà, nous allons prier que le Seigneur nous aide à comprendre sa souveraineté. Hein, premièrement, le psaume 60, ça a insisté, nous avons plutôt insisté sur la souveraineté de Dieu. Vous savez, je répète encore, c'est très important qu'on entre dans cette dimension-là. Vous savez, autrefois, nous, quand on disait que l'homosexualité, c'était pas bon, on cherchait des arguments du genre, oui, mais si tout le monde était homosexuel, donc il n'y aurait plus d'enfants. Donc vous voyez bien que ce n'est pas bon. Voilà. Des arguments du genre, oui, vous regardez le monde animal, il n'y a pas d'homosexuel. Voilà. Mais tout ça, c'est parce que nous voulons, quelque part, satisfaire la logique humaine. C'est pourquoi on cherche des arguments pour pouvoir mettre la logique humaine qui nous écoute, la personne qui nous écoute, à l'aise. Bien-aimé, la première raison, même si on peut rajouter ce que je viens de rajouter là, et bien sûr, eux, ils trouveront comment contredire ce que je viens de rajouter, hein, mais la vraie raison qui fait que l'homosexualité, c'est pas bon, c'est que Dieu ne veut pas. Oui, c'est ça la souveraineté. Tu dis à la personne, Dieu ne veut pas. Et alors? Mais c'est Dieu qui nous a créés. Il est souverain dans ce qu'il a créé. Il a décidé que ce n'est pas comme ça. Voilà. Mais dans beaucoup de domaines, nous avons perdu ce côté souveraineté et on cherche toujours à mettre les gens à l'aise, à expliquer, expliquer. Non, à un moment donné, il faut leur dire, c'est Dieu qui a tout fait. C'est comme ça, il ne veut pas. Ah oui, mais les gens, ils s'aiment. Tout ça, ils sont mis ensemble comme ça que quand il y a des gens qui ont divorcé, ça n'a pas marché avec. Maintenant, quand ils sont avec les gens de même sexe, ça se passe bien. Ils se comprennent parce qu'ils sont bien aimés. Tu dis tout simplement, il y a un créateur, le Dieu d'Israël. Il a dit dans sa parole que c'est une abomination et ce n'est pas bon. D'ailleurs, c'est pourquoi on va faire une émission la vendredi, donc à 14h, LGBT, qu'en pense la Bible? Il faut qu'on dise les choses. Parce que beaucoup, même dans le milieu chrétien, commencent à verser dans ça, puisqu'on ne dit rien. Non. Ils écoutent les autres discours, mais nous, on ne dit rien. On va dire les choses. Dieu ne veut pas. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Maintenant, on peut toujours rajouter quelques petits arguments rationnels, mais en réalité, Dieu ne veut pas. C'est lui le chef, il est souverain. Donc, prions vraiment que Dieu nous fasse entrer dans cette conception de sa souveraineté, dans notre vie de tous les jours, qu'on se soumette à lui tel que lui l'a décidé, sans chercher toujours à comprendre pourquoi. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons prier que tu nous aides à nous soumettre à toi, à nous soumettre à toi, tel que toi tu as décidé en écrivant ta parole. On n'a pas à chercher à comprendre avant de nous soumettre. On se soumet et la compréhension viendra peut-être après. Mais tu es Dieu, tu es au ciel, tu fais ce qu'il veut, tout est à toi. Nous devons accepter cela, que c'est comme ça, c'est à toi. Seigneur, c'est comme si nous, on boit du lait à 15h ou à midi, c'est notre lait, on fait ce qu'on veut. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à accepter ta souveraineté, à ne pas polémiquer avec toi. Et si nous devons demander des explications, que nous attendions dans la paix le retour et non pas dans l'agitation et dans la rébellion, Seigneur. Merci de te manifester dans le nom de Jésus-Christ pour nous faire entrer dans cette réalité dans laquelle nos aînés de l'Ancien Testament étaient vraiment bien installés, la conception de ta souveraineté au nom de Jésus-Christ. Prions également pour que nous réalisions vraiment que Dieu est notre refuge pour tout. Quand on dit refuge, c'est qu'il y a des dangers. C'est pourquoi je me réfugie. Alors tout ce que tu considères comme danger, mets ça devant Dieu, dis Seigneur, oh, malgré tout ça, moi je me cache en toi, tu es mon refuge. Oh Seigneur, nous venons prier que tu nous aides, Seigneur, vraiment à réaliser que tu es notre refuge pour tout. Pour tout, pour tout. Comme nous parlons de refuge atomique, de refuge par rapport aux bombes, des abris, Seigneur, qui cachent vraiment les gens. Mais toi, tu es le plus grand abri, le plus grand refuge. Nous voulons, Seigneur, considérer que tu es notre refuge par rapport aux menaces du nouvel ordre mondial. Considérer que tu es notre refuge par rapport aux mesures de rétorsion gouvernementale. Tu es notre refuge par rapport aux mesures liées aux mesures de gens qui veulent créer des pénuries alimentaires. Tu es notre refuge par rapport à la montée du prix des carburants. Tu es notre refuge par rapport à la montée de l'homosexualité. La montée de LGBT, la montée de la pornographie, tu es notre refuge par rapport à la montée, Seigneur, du satanisme, comme on a vu dernièrement ce concert où il y a eu 8 personnes qui sont mortes. Un concert qui était fait dans un lieu décoré en enfer, Seigneur. Les gens ont senti le goût de l'enfer, mais ils y sont allés tout bonnement. Seigneur, nous venons prier que tu sois notre refuge par rapport à ça, parce qu'il y a certains chrétiens qui écoutent malheureusement de telles musiques, Seigneur. Seigneur, nous venons prier que tu sois notre refuge par rapport au loup que Satan envoie au milieu de nous pour nous déstabiliser. Notre refuge par rapport à des Judas aussi, hein, qui peuvent être utilisés par Satan pour nous déstabiliser, Seigneur, au milieu de nous. Manifeste-toi dans ta gloire et dans ton amour. Seigneur, nous ne voyons pas, mais toi tu vois. Alors nous nous réfugions en toi. Au nom de Jésus, béni soit ton nom. Amen.